Il est 16h à Paris et 15h à Niamey où il faut un peu bidouiller pour nous écouter, pour écouter Olivier Sherman. Bonjour Olivier, le journal.
Bonjour Pascal Paradou, bonjour à toutes et à tous. En France, le meurtre d'un Tunisien dans le Var ce week-end secoue la classe politique. Le ministre de l'Intérieur accusé de banalisation du racisme par une partie de la gauche. La première ministre italienne Giorgia Meloni reçoit ce soir le président français Emmanuel Macron. Objectif, consolider les relations entre les deux pays, aborder les grandes questions européennes et internationales et décrisper la relation entre les deux dirigeants. Un revers pour la politique migratoire allemande. La justice retoque l'expulsion de 3 migrants à la frontière polonaise. Berlin défend fermement sa politique de refoulement des demandeurs d'asile aux frontières. Enfin, nous irons à Roland-Garros et déjà les premières qualifiées pour les demi-finales dames. La polonaise Iga Świątek, tenante du titre, sera bien présente dans le dernier carré. Un meurtre raciste secoue la classe politique et le ministre de l'Intérieur est visé. Un homme de nationalité française a tué ce week-end dans le Var, dans le sud de la France, l'un de ses voisins de nationalité tunisienne et en a blessé un autre de nationalité turque. Le meurtrier présumé a posté des vidéos racistes et avait comme volonté de troubler l'ordre public par la terreur. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Hier, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a dénoncé un crime raciste et prémédité, ajoutant tant que chaque acte raciste est un acte anti-français. L'avocat de la famille de la victime dénonce, lui, le climat politique qui règne en France. Discours largement repris par la gauche qui va jusqu'à accuser le ministre de l'Intérieur de banalisation. Raphaël Delvolvé.
Pour Olivier Faure, en quête d'une réélection à la tête du Parti Socialiste, Bruno Retailleau a une part de responsabilité dans le meurtre d'Hichem Mirawi. Pour le patron du PS, le ministre propage un racisme d'atmosphère. Pour une fois, total alignement avec la France insoumise, le député Adrien Clouet.
Aujourd'hui, on a effectivement une libération de la parole islamophobe et plus généralement raciste d'extrême droite et repris au plus haut niveau par M. Retailleau et ses amis. Eh bien oui, lorsque des discours racistes circulent, les pratiques racistes voient légitimer.
La gauche impute notamment au ministre ses sorties sur les Français de papier ou plus récemment sur les barbares pour qualifier les émeutiers de ce week-end sur les Champs-Élysées, sans pour autant défendre Bruno Retailleau, dont il est aussi une cible régulière. Le Rassemblement National juge l'accusation de la gauche infondée, Jean-Philippe Tanguy.
Non, je ne comprends pas cette mise en accusation et aucune force politique n'a de propos racistes dans notre pays, il faut s'en féliciter, c'est pas le cas dans tous les pays.
Dans le socle commun, Mathieu Lefèvre, député de l'aile droite des macronistes, dénonce lui un faux procès contre le locataire de Beauvau.
Pardon, mais c'est pas Bruno Retailleau qui a assassiné quelqu'un en raison de sa religion. C'est profondément injuste vis-à-vis de Bruno Retailleau qui a condamné ce crime atroce.
Le ministre de l'Intérieur a également évoqué une dimension terroriste au meurtre de samedi. Il s'est rendu ce matin à l'ambassade de Tunisie à Paris.
Et le ministre de l'Intérieur vient de préciser à l'Assemblée nationale que le meurtre de ce Tunisien était clairement un crime raciste, sans doute aussi anti-musulman et peut-être aussi un crime terrorisme. Le racisme, dit-il, ce n'est pas la France. Le policier auteur du tir qui a tué le jeune Naël en 2023 à Nanterre sera jugé pour meurtre aux assises. Souvenez-vous, Naël, un adolescent de 17 ans, avait été tué d'une balle tirée à bout portant par un policier qui contrôlait le véhicule qu'il conduisait. Cette mort avait entraîné des semaines d'émeutes en France. Le policier auteur du tir sera donc jugé pour meurtre. Il s'agit d'une décision conforme aux réquisitions du parquet. Le procès se tiendra l'année prochaine. La visite officielle à Rome d'Emmanuel Macron, qui sera suivie d'un dîner, est perçue en Italie comme un signal de décrispation donné par le président français à la première ministre italienne, Giorgia Meloni. Ils s'entretiendront au Palais Chigi sur des questions européennes et internationales à l'approche du G7 au Canada dans 2 semaines, du sommet de l'OTAN aux Pays-Bas 1 semaine plus tard et du Conseil européen à la fin du mois. Les relations entre la France et l'Italie restent solides, en particulier au niveau économique et industriel. Mais celles entre les deux dirigeants sont marquées par des divergences profondes, notamment depuis ces 12 derniers mois. Anne Lenir à Rome.
Partons du G7 de juin 2024, présidé par l'Italie. Des photos à l'ombre des oliviers d'Épouille ont gravé le froid entre Macron et Meloni suite au veto italien sur l'intégration dans le communiqué final du réengagement à garantir le droit à l'avortement. Depuis, les relations entre l'européiste convaincu et l'ultra-conservatrice sont restées frileuses. Elle voulant jouer les médiateurs entre Donald Trump et Bruxelles, lui appelant à l'union des Européens européens face aux droits de douane. Autre pomme de discorde, l'Ukraine, même si le soutien de Rome perdure. Leur dernière prise de bec remonte au 16 mai, suite à l'absence de la première ministre italienne à une réunion de la coalition des volontaires. Giorgia Meloni s'est justifiée en réitérant d'un ton irrité, l'Italie ne veut pas envoyer de troupes en Ukraine. Emmanuel Macron l'a recadré de manière cinglante, je crois qu'il y a eu une erreur d'interprétation, la discussion était autour d'un cessez-le-feu. Mais parions qu'au Palais Chigi, les discussions aboutiront à des déclarations apaisantes. Anne Lenire, Rome, RFI.
Le Kremlin écarte tout règlement à court terme du conflit armé en Ukraine, pas de solution immédiate donc, et cela au lendemain de nouveaux pourparlers russo-ukrainiens peu fructueux à Istanbul. La question du règlement est extrêmement complexe et comporte de nombreuses nuances, indique Moscou, rappelant que la Russie souhaitait avant tout éliminer les causes profondes du conflit pour parvenir à la paix. Coup dur pour la politique migratoire du gouvernement allemand. Un tribunal administratif a retoqué hier le renvoi à la frontière de 3 Somaliens qui tentaient de rejoindre l'Allemagne depuis la Pologne. Le ministre de l'Intérieur conteste à Berlin, Nathalie Versieux.
Cette décision concerne un cas bien particulier. Nous poursuivrons les refoulements. Le très conservateur ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, a catégoriquement exclu hier soir de modifier sa politique de refoulement, pourtant contesté par un tribunal administratif de Berlin quelques heures plus tôt. De fait, la décision du tribunal ne concerne dans un premier temps que les 3 Somaliens qui avaient tenté de franchir la frontière germano-polonaise le 9 mai dernier. Refoulés en Pologne par Berlin, sans examen de leur statut, ils avaient saisi la justice allemande avec l'aide d'associations humanitaires. Celles-ci ont donc remporté une première manche, mais l'Allemagne n'a pas non plus à tolérer l'immigration illégale, ont ajouté les juges, renvoyant le dossier à un accord entre Berlin et ses voisins, en l'occurrence un accord avec la Pologne, qui vient d'élire un président ultra-conservateur opposé à l'immigration. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Et le chancelier allemand Friedrich Merz a fermement défendu aujourd'hui sa politique de refoulement des demandeurs d'asile aux frontières. Berlin assure que les refoulements sont possibles en vertu d'accords avec les pays voisins et du règlement de l'Union européenne. Les refoulements sont nécessaires, selon Friedrich Merz, pour protéger la sécurité et l'ordre public en Allemagne, pour éviter aux villes et aux communes d'être surchargées et donner la priorité à l'immigration qualifié. En Allemagne, une expulsion de 3 Somaliens retoquée par la justice, et aux Pays-Bas, le dirigeant d'extrême droite Geert Wilders se retire de la coalition gouvernementale à la suite d'un différend sur l'immigration. Il fait tomber la fragile coalition à la tête du pays en la quittant. Geert Wilders estime que le gouvernement prend trop de temps à mettre en place la politique d'immigration la plus stricte jamais vue aux Pays-Bas, voulue par la coalition après la victoire surprise de son parti aux élections de novembre 2020. Un départ qui plonge le pays dans une incertitude politique et qui pourrait ouvrir la voie à des élections anticipées. En Corée du Sud, le candidat de centre-gauche Lee Jae-myung remporte très largement l'élection présidentielle. Une élection à un seul tour, il obtient plus de 51% des suffrages. Direction la terre battue de Roland-Garros à présent. Chez les dames, la triple tenante du titre Iga Świątek a écarté l'Ukrainienne Elina Svitolina en quart de finale. Bonjour Frédéric Suto.
Bonjour Olivier.
Alors Svitolina rencontrera la numéro 1 mondiale.
Oui, une finale avant la lettre, hein, la demi-finale, Arina Sabalenka, Iga Świątek dans deux jours. Vous le disiez, pour Iga Świątek, triple tenante du titre, elle monte en puissance, hein, la polonaise qui s'était retrouvée au bord du gouffre au tour précédent en huitième de finale, menée par Elena Rybakina, 6-1-2-0, elle était toute prête de prendre la porte, mais là face à Elina Svitolina, l'Ukrainienne, l'épouse de Gaël Monfils, le joueur français, eh bien Iga Świątek a serré le jeu dans le vent. Il y a du vent sur le central de Roland-Garros aujourd'hui. 6-1, 7-5, avec notamment 3 services, 3 aces dans le dernier jeu pour Iga Świątek, la polonaise qui n'a pas gagné le moindre tournoi depuis un an, depuis son dernier sacre ici à Roland-Garros. Et donc le match dans deux jours face à Arina Sabalenka, la demi-finale tant attendue.
Merci beaucoup Frédéric Suto. Tout de suite, Caroline Lachowski avec Autour de la question.